suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous quand il sonne 11h sur votre radio La Nouvelle Génération. Vous comprenez que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre ainsi. Merci de nous choisir et merci d'être là pour ce deuxième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte à l'heure de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Kossi était d'Ativia sur la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Losso au micro. Merci fraternel à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekho, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous suivre à travers nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays et aussi d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, confrères journalistes qui a répondu déjà à notre invitation. C'est bien Eric Parkoudjo-Johnson. Eric, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour grand frère, bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Canal FM.
Eric, j'espère que tu vas bien et que tu as bien démarré aussi la semaine.
Oui, tout va bien, merci.
Dieu merci. Alors, vous avez salué le grand frère maintenant. Moi aussi, je me permets alors de le saluer en le disant, moi je l'appelle plutôt Doyen. Bonjour Doyen.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Vous savez, en réalité, l'Afrique, c'est un grand hôpital, toute l'Afrique, hein.
Comment ça?
Oh, c'est un hôpital. Tout à... C'est plus la peine de demander aux gens comment vous allez, comment... Bon, on se permet de dire « ça va très bien ». Souvent, c'est la formule...
Mais même si ça ne va pas.
Oui, même si ça ne va pas. Bon, je vais te dire « ça va très bien
». Mais est-ce que ça, c'est pas de l'hypocrisie, finalement? Quand ça ne va pas, donc tu me dis que ça va très bien. Merci beaucoup Claude Assiobotis d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes chroniqueur, critique littéraire, aussi écrivain. Écrivain, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages et aussi ces ouvrages qui ont reçu même des prix. Des prix. Nous allons revenir dans nos chroniques alors sur ces ouvrages et surtout le contenu aussi de ces ouvrages dans ces chroniques de mardi. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser, et comme nous l'avons indiqué même la dernière fois, nous allons désormais évoluer essentiellement en littérature togolaise. Alors Claude, pouvez-nous rappeler les différentes cases dans lesquelles vous les avez classées, c'est-à-dire les auteurs togolais la dernière fois?
Oui, je vais aller vite. J'ai fait deux grandes classes. Il y a ceux que j'ai appelés les écrivains absents et les écrivains de proximité. Et dans les écrivains de proximité, j'ai trouvé deux sous-ensembles. Les vétérans jeunes, ceux qui sont venus tard à la littérature, malgré leur grande culture littéraire, et les jeunes surtout par l'âge. Et voilà.
Et donc, alors, nous allons nous intéresser d'abord aux absents. Et selon
non,
vous,
pas aux absents.
Oui, mais aux absents.
Moi, j'aurais aimé qu'on parle plus tard des absents.
On parle plus tard des absents.
Des absents, oui. À votre convenance, oui.
D'accord.
Moi, j'aurais aimé ça, oui.
D'accord. OK, pas de souci.
On parle d'avoir des vivants.
Des vivants, voilà. Alors, des vivants, parlons des vivants. Qui sont maintenant les plus représentatifs, selon vous?
Oui, je vais parler simplement des jeunes vétérans aujourd'hui. Je peux parler des jeunes, peut-être après, si on a le temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et je vais citer... Les vétérans jeunes, comme je l'ai cité, et les jeunes, par l'âge. Alors, lorsqu'on parle d'écrivains les plus représentatifs, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. On n'est pas représentatif parce qu'on a écrit une histoire, une belle histoire. On est représentatif, écrivain représentatif, parce qu'on a une belle écriture, on a une écriture. On a une écriture représentative. Ça veut dire... Si un étranger vient, par exemple, dans ce pays et demande à connaître les écrivains togolais, il faut qu'on lui donne quelque chose et qu'il dise, oui, voilà, ça y est.
Il faut qu'il y ait de la matière.
Qu'il y ait de la matière, qu'il y a de quoi. Hein. Si vous vous dites, est-ce que je peux aller concourir à l'extérieur, si vous n'êtes pas sûr de vous-même, alors vous n'êtes pas encore représentatif, à mon avis. Alors, quels sont les écrivains représentatifs, mais qui sont des vétérans jeunes? Et je vais vous parler aujourd'hui, je peux les citer, je les prends, reprends un à un. J'ai parlé de Madame Rita Menda, j'ai parlé de Abbé Douama, j'ai parlé de Monseigneur Barriga, c'est le plus représentatif, il y a d'autres, mais c'est le plus représentatif. Hein. Catherine Adodo, il y a Monsieur Dieudonné, hein. Il y a Sekou Kadjangabalo. Voilà.
Qui est professeur.
Professeur, oui, proviseur.
Lettre modèle.
Voilà. Vous prenez par exemple Monseigneur Barriga, qu'est-ce qui le caractérise? Il a écrit deux œuvres, Trône royal et Abus de pouvoir et Cri d'autorité, et qui est un essai. Souvent, lui, il évolue dans les problèmes de gouvernance politique et de libre arbitre. Hein, avec un style très simple, mais profond. Voilà. Puisque nous sommes en train de faire le profil, nous allons revenir hein, à tous ces auteurs togolais qui ont de la matière hein, et des plumes et approfondir assez leurs œuvres. Après, à Pedro Hama, essentiellement dans deux œuvres, moi j'ai pas lu ces récits. J'ai lu surtout ces pièces de théâtre hein, et c'est quelqu'un qui fait le mélange des genres, hein, le mélange des genres de ses œuvres, et il écrit souvent des tragédies. Les tragédies, ça veut dire la confrontation à des forces difficiles, des forces, l'homme confronté à des forces qui le dépassent. Et il y a beaucoup de tensions hein, dans ses œuvres. Il y a assez de tensions, je lui dirais. Et puis, il pratique le mélange des genres. Hein, et si on peut donner un profil, il parle aussi, c'est souvent des problèmes de gouvernance, des problèmes politiques, essentiellement à l'intérieur hein, de pays africains. Il parle aussi de l'impérialisme. Et voilà un peu, hein, c'est ça. C'est schématique, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, et c'est un peu ça. Vous prenez, par exemple, Rita Menda. J'ai particulièrement aimé, elle a écrit un recueil de nouvelles, et la première nouvelle est très riche, hein, très, très, très symbolique de son écriture, qui est, lui-même s'appelle Fait d'hiver et d'espoir. Mais elle a cette nouvelle, avec sa densité, ce que j'aime chez elle, c'est que si vous voulez connaître comment on peut partir d'une histoire très locale, mais pour arriver à une histoire universelle, hein, universel parce que profond, il faut lire cette nouvelle. J'ai beaucoup regretté que ce soit une nouvelle. Ça aurait été un roman.
Un roman.
Oh, ce serait vraiment un monument des romans togolais. Hein. Et vous, je peux prendre Eomsan Dieudonné, c'est quelqu'un qui sait concilier l'engagement politique. Et là, c'est pas parce que il dénonce le pouvoir et ses abus qu'il va le dire d'une façon triviale ou d'une façon banale. Hein, à bas la dictature, ça ne veut rien dire. Si vous commencez votre livre par à bas la dictature, il faut fermer le livre. Hein, il faut le dire autrement. Alors, il sait le faire.
Hein. Et ça, c'est de l'art.
Et même Sartre disait que l'écriture qui n'est pas est convenable pour l'engagement, parce que Sartre, c'est le pape de la littérature. Mais lui dit, si vous voulez vous engager, dévoiler le réel, l'écriture, ce qui ne se prête pas à ça, c'est la poésie. Mais je crois que l'écriture de... Et on s'en dément ça. Hein, ça dément ça. Et c'est un démenti. Et c'est un recueil de poèmes qui est très engagé, mais qui ne néglige pas du tout l'art. Hein, c'est l'erreur que beaucoup font. Et je peux vous parler de Sekou Kadjangabalo, que je n'ai pas fini de lire, mais il a écrit un roman, un récit très bien, hein, qui a un peu, une fibre sociologique, puisqu'il développe le thème essentiel, c'est la sorcellerie, et dont l'éditeur même dit, c'est une grande poésie sur la liberté. C'est l'éditeur même qui le dit. Hein. Vous avez aussi Kathleen Adodo, c'est la femme du ministre Adodo. Hein. C'est une œuvre très représentative de ce qu'on a pu appeler la puissance et la nouveauté des images. Hein, parce que pour faire la poésie, il faut pas dire les choses telles quelles, et il faut pas non plus dire des clichés. Et c'est ça qu'on reproche aux jeunes poètes et aux écrivains et jeunes en général. Même parmi les jeunes, il y a des percutants. Hein.
Il y a des gens
on en parlera. Oui. Et donc, lorsque vous voulez faire des images, et même la littérature en général ne se permet pas des clichés, ce qui est déjà dit, redit, une façon de le dire, bon, c'est pas ça. Mais si vous lisez l'œuvre de Kathleen Adodo, Pèlerin du bonheur, vous allez voir ce qu'on appelle la puissance et la nouveauté des images. Elle a même eu un prix pour ça, en Côte d'Ivoire. Et voilà, et je suis en train d'oublier le nom de... Voilà, je m'arrête sur ces quelques écrivains.
D'accord.
On peut me poser des questions si vous voulez.
D'accord. Sûrement que Eric a une question pour vous, Eric.
Non, mais ma question, c'est par rapport à ces écrivains vétérans jeunes.
Oui.
Si vous ne citez pas Kossiéfoui, par exemple, est-ce que vous le mettez dans les écrivains absents?
Des écrivains absents. Ah. Et Alem, je le mets, il est à cheval.
Oui.
Il est à cheval. Il s'est fait connaître surtout à l'extérieur. Mmh. Hein, il est à cheval. Je parlerai de tout ça dans les écrivains absents.
Et Théo Analisso.
Théo Analisso, il est aussi à cheval.
Il est aussi à
mais
cheval.
Mais il est plus dans la diaspora. Mmh. Il est plus loin, il est dans les écrivains absents.
Hein. Mmh, d'accord. Isidore Akolo, bonjour.
Bonjour à toi et bonjour à tout le monde.
Merci de nous avoir rejoints. Merci de nous avoir rejoints. Alors, une question?
Oui, je suis un peu resté sur ma soif dans le développement de l'espère. Je ne me connais pas tellement en littérature, mais quand on parle de représentativité, il y a l'audience. Ce n'est pas seulement la qualité. Et si je me réfère aux médias, c'est l'audimat. Ce n'est pas parce que vous avez une audience ou vous faites bien que vous avez l'audience. Moi, je pense, ceux qui viennent de citer, combien de gens les connaissent au Togo? Combien d'ouvrages ou d'œuvres ils ont vendus? Moi, je crois que c'est le baromètre de la représentativité.
C'est votre
question. Vous voulez que je réponde?
Oui.
En 2 minutes.
Oui, en 2 minutes.
Et Guy Descartes est l'un des auteurs les plus vendus. Mais il n'est pas cité comme écrivain. Il n'y a aucun livre de Guy Descartes. Il était très vendu. Ce n'est pas ça. Et puis, au Togo, c'est un grand point que vous avez posé, la réception. La réception, il se fait qu'au Togo, les Togolais ne lisent pas. Et on se demande s'il n'y a pas plus d'écrivains que de lecteurs. Et la littérature du Togolais se ferait même, je dis, demain. Et aujourd'hui, les choses sont tellement politisées que ce qu'on veut rendre visible, par exemple, les œuvres sont en train de... On est en train de mettre les œuvres dans le programme. Mais ce n'est pas nécessairement ceux qui sont les plus représentatifs. À mon avis, je regrette de le dire. Est-ce que vous suivez? Donc, c'est ça, la réalité. Peut-être que ceux qui ont choisi, eux, ce qui les intéresse, c'est les thèmes. Mais on n'est pas écrivain parce que on développe un thème. On est écrivain, comme le dit Sartre. Ce n'est pas ce qu'on dit, mais comment on le dit. Est-ce que vous suivez? C'est ça. Donc, c'est un grand problème. On peut en faire une heure là-dessus.
Je pense que c'est une guerre d'école. Hein.
Non, même pas une guerre d'école. En Inde comme en Chine, lorsque vous êtes un écrivain représentatif, il y a la logique. La logique est sur place. Vous êtes porté par les médias tout de suite. Parce que les critiques vous montrent du doigt que celui-là, c'est un monstre sacré qui vient de naître. Et vous êtes pris en charge tout de suite par les médias. Et lorsque vous êtes pris en charge tout de suite par les médias, la lecture suit. Alors je me dis, comme Goncourt, ce n'est pas n'importe qui. Et les gens achètent. C'est ce qu'on appelle la politique du livre. Au Togo, c'est faible. C'est ça la réalité. C'est ça qui fait que les écrivains ne sont pas visibles. Les écrivains ne sont pas du tout visibles. C'est ça la réalité.
Mais est-ce que, d'après ce que vous venez de dire, est-ce que la critique au niveau des médias aussi a quelque chose en manque?
Oui, mais la critique en médias, il faut les accompagner. Si vous ne les accompagnez pas, mais c'est dommage. Moi, j'ai remarqué, par exemple, dans les cours, dans on distribue un peu à tout le monde, et puis on oublie la critique. La critique, c'est eux qui prennent la littérature. C'est ça. Sans ça, il n'y a pas de littérature. Et c'est eux qui... On ne peut pas tout lire. Et puis parfois, vous allez voir des œuvres qui sont difficiles à lire, mais c'est le critique qui vous tient la main, qui vous donne les clés, et vous vous appropriez tout. Mais vous allez jurer par cette œuvre. Ce n'est pas les petites histoires d'amour, non.
Et vous terminez par faire une bonne digestion même de cette littérature.
Voilà.
C'est-à-dire de cette lecture en question.
Vous dites ?
Et je dis, finalement, vous terminez par une bonne digestion.
Bonne digestion.
Voilà,
si et c'est une lecture qui vous nourrit. Donc, la politique du livre étant faible au Togo, je crois que quelque chose a commencé. Approfondi. Demain, on verra. Je vais vous dire d'ailleurs, la plupart de nos écrivains, ceux qui sont très bons, ils sont à l'extérieur. Et demandez aux élèves, qui est Samy Tchak, qui est Kossier Fou, ils vont vous dire si c'est un boucher, si c'est un Megirao marché. Et il y a une qui vient de mourir, madame, je vais parler d'elle d'après, Arousou, Jeannette, mais c'est terrible, comme écrivain, mais c'est pas de la blague. Mais qui la connaît? Elle est partie.
Elle est parmi les absents.
Oui, bien sûr. Mais avec une plume, si vous la lisez, vous dites, mais est-ce que ça existe au Togo? Mais personne ne la connaît.
D'accord.
Quelle est la réalité de la littérature togolaise?
Justement, c'est ça la réalité de la littérature togolaise. Et nous, notre devoir, c'est d'apporter une promotion ou une valorisation à cette littérature. Et cette émission ou cette chronique en fait partie. Merci, Claude, d'être toujours avec nous et d'apporter votre contribution pour cette promotion de la littérature.
C'est à moi de vous remercier.
Merci. Merci. Et bonne journée chez toi. Alors, chers confrères, nous allons mener notre débat après cette chronique littéraire. Nous sommes rejoints par notre confrère Adam Adronou. Adam, bonjour.
Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité.
Adam, j'espère que tu vas bien.
Oui, ça va.
D'accord, Dieu merci. Alors, Eric, nous nous intéressons à ce sujet que vous avez traité ce matin. Vous écrivez à la une de votre journal, L'Union pour la Patrie, grand dépassement dans les dépenses de personnel, évaluation difficile pour la Cour des comptes. Alors, en quoi la Cour des comptes a fait une évaluation difficile?
Oui. La Cour des comptes vient de publier un rapport sur son travail sur le budget 2022-2023. Et donc, la Cour a relevé et que depuis son travail sur le budget en 2020-2021, elle a constaté qu'il y a des dépassements inouïs sur les dépenses de personnel. On va jusqu'à dire que dans certains départements ministériels, les dépenses de personnel dépassent les 1000%.
1000%?
1000%. Je répète, je peux te donner un exemple. On dit que ces dépassements de personnel vont jusqu'à 123 503%. Alors, dans son travail, la Cour a constaté qu'il y a certains agents de certains ministères qui émargent dans d'autres ministères.
Ça veut dire que le budget qui est alloué à ce ministère-là va forcément dépasser les allocations. Or, nous sommes aujourd'hui dans un budget programme. Et donc, pour faire l'évaluation d'un ministère, on prend ce qui a été alloué et on essaie de regarder si les projets ont été réalisés. Et malheureusement, la Cour constate que certains projets ne sont pas réalisés et pourtant, le budget qui a été alloué est totalement terminé. Et le constat, c'est qu'il y a beaucoup plus de dépenses dans les dépenses de personnel. Et donc, la Cour a fait, depuis 2020-2021, la Cour a fait des propositions. Et la Cour vient de constater encore, après son travail en septembre dernier, c'est-à-dire le mois dernier, la Cour a encore constaté que ces dépenses de personnel s'agrandissent au fur et à mesure dans les différents ministères. La Cour a approché le ministère de tutelle, qui est le ministère des finances. Et la réponse que la Cour a, c'est que lorsqu'il y a par exemple un remaniement ministériel et quand peut-être parfois on scinde certains ministères, je prends par exemple le cas du ministère du tourisme qui était ministère du tourisme et de la culture qui aujourd'hui la culture est rattachée au ministère de la communication. Alors le personnel qui émargeait sur le ministère du tourisme et de la culture va désormais émarger sur le ministère de la communication. C'est tout à fait logique. Et donc, ça fait que les dépenses en personnel au niveau du ministère de la communication va s'augmenter, puisque son propre personnel est déjà là. Et ainsi de suite. Donc, quand le ministère a donné cette réponse-là, le ministère des Finances a donné cette réponse à la Cour des comptes. La Cour a fait des recommandations que désormais, il faut que chaque projet essaie de voir. Parce que le constat est que dans certains ministères, il y a plus de personnel sur les projets, alors que dans d'autres, il y a un sous-effectif de personnel.
Comment vous expliquez ça?
Mais c'est ce que le ministère a donné comme réponse à la Cour. Donc, moi, je ne peux pas donner une explication, mais je prends juste l'explication que le ministère des Finances a donnée à la Cour. Donc, de cette manière-là, on aura de ces dépenses de personnel qui dépassent parfois même le budget alloué pour des projets. Je continue, hein, on dit des cas de dépassement jusqu'à 11 529% dans certains ministères, 1283 dans d'autres, etc., etc. Et la Cour a bien fait de donner ces pourcentages-là dans au moins une dizaine de ministères.
D'accord. Isidore, est-ce que vous arrivez à comprendre le fait que dans les ministères, selon même d'ailleurs cette évaluation que la Cour a eu à faire, dans les ministères, le personnel prend plus alors la grande partie alors des budgets ou du budget, plus que même d'ailleurs les projets?
Oui, la Cour ne peut que faire du constat. Le constat, est-ce que nous sommes convaincus de la manière dont les choses se passent? Moi, je ne suis pas convaincu de l'argument avancé par le ministère des Finances. On nous parle de budget programme. C'est bien ça?
C'est ça?
C'est dans cette approche que nous sommes. Même si on dit que il y a remaniement, on a affecté certaines fonctions à d'autres. Mais le département, ce département en question, à son budget programme. À moins que je ne comprenne pas, hein. Si on prend le cas d'espèce, aujourd'hui, le ministère de la Communication des médias, on a ajouté culture.
Culture.
Ce n'est plus le ministère
du tourisme
qui va faire un budget, programme, sur les agents qui seront obligés d'être affectés maintenant au ministère de la Communication. C'est au ministère de la Communication de faire son budget.
Voilà. Et justement, rapport à ça, ce que la Cour demande, c'est de rattacher désormais tous les agents de l'État à ces programmes spécifiques. C'est-à-dire que si le ministère de la Culture a un programme, un projet, que tous les agents qui vont désormais travailler sur ces projets-là soient sur ce programme-là, de même que leur salaire.
Tu permets que je dise.
C'est juste pour apporter.
Oui. Mais là, il y a du laxisme, une mauvaise gestion. Il y a détournement d'objectifs. Quand on parle de détournement d'objectifs, c'est qu'il y a détournement de fonds aussi. C'est la triste réalité. On ne veut pas justifier ces écarts, hein, et exponentiels. Par le fait que on a changé la dénomination ou les attributs d'un ministère. Mais il y a un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Le budget de fonctionnement ne peut pas dépasser le budget d'investissement jusqu'à parler seulement du personnel. Alors là, l'approche budget-programme, là, je ne la comprends pas.
D'accord. Adam ?
Oui, je me dis, est-ce le ministère de la Culture et de la Communication ?
Non, ça, c'est un exemple que j'ai donné.
Je dis, est-ce que c'est un bon exemple ? Je n'y crois pas, puisque le ministère est retourné, ou l'appellation est juste retournée à son appellation d'antan. Puisque ça a été d'ailleurs même une guerre, comment pouvez-vous même comprendre qu'un projet, vous allez parler tout à l'heure d'un projet qui est un projet d'un autre ministère, est dirigé par le secrétaire général d'un autre ministère. C'était le cas. Donc aujourd'hui, au moins, on a une logique. Lorsque vous interrogez, on peut expliquer. Puisque lorsque vous prenez par exemple le projet concernant le fonds alloué au truc
la
là,
culture.
Voilà, qui est logé au ministère du Tourisme, est dirigé par le secrétaire général du ministère de la communication. Ça a été véritablement, c'est une guerre, personne ne comprend. Mais vous savez, moi, je pense que cette question, nous avions publié récemment un article concernant tout simplement la contractualisation. Vous convenez avec moi que si depuis 2009, qu'on a organisé un concours, et chaque année, les gens, vous avez constaté sur les réseaux sociaux, on a encore publié plus de 1000 départs à la retraite. Et il y a des directions tout entières dans des ministères où le personnel, il n'y a pas un seul fonctionnaire parmi tout le personnel, des directions, dans plusieurs ministères. Tous sont des contractuels, mais vous voulez quoi depuis 2009 jusqu'alors? Oh, il y a des concours qui sont organisés, du coup en 2021-2022, et qui ne sont jamais proclamés. Nous sommes interrogés pour dire à qui profite la contractualisation. Puis nous nous sommes posé la question, est-ce que les gens n'ont pas d'intérêt? Puisqu'il y a un cas qui s'est produit au Cameroun, si vous en souvenez, etc. Donc ça cause réellement problème. Donc la question réside là. Donc justement, les gens profitent également pour mettre des cousins, cousines, etc. Donc c'est... Puisque il faut quand même justifier le personnel qui est là. Tout simplement, pour arriver à résoudre ce problème-là, c'est justement de pouvoir, à ce départ à la retraite, je vous dis actuellement, fort heureusement, au ministère de la Santé, ça a été résolu avec le concours qui est proclamé. Maintenant, les autres ministères. Entre-temps, on a recensé, nous disant, voilà, le ministre de Missy Barra a justifié le fait que, véritablement, il y a un grand manque. Mais jusqu'alors, ça fait attendre. Puisque je pose la question de savoir, si réellement il y a des départs à la retraite, il faut quand même qu'on pouvoir à ces postes-là. Puisqu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas, en tout cas, justifier cela par l'absence des moyens. Ce n'est pas possible, puisque les gens sont partis à la retraite. Ils jouissent de ce qu'eux-mêmes, ils ont cotisé. Ce n'est pas l'argent de l'État qui paye. En tout cas, les retraités, c'est eux-mêmes leurs cotisations. Et ceux qui sont partis à la retraite, je vous dis actuellement plus de 1000, puisque le ministère a publié plus de 1500, je crois, départ à la retraite. Mais vous voulez quoi? Mais est-ce ça va toujours augmenter.
Est-ce que c'est vraiment des gens qui sont partis ou ils sont là encore à végéter?
Mais on peut les recycler de toutes les façons. Quand tu restes, de toutes les façons, on sait qu'il y a plein de retraités. Des
ils
gens,
sont toujours en fonction.
Des gens avec qui durent des années, mais qui sont là en fonction. Mais justement, on les signe des contrats.
Ouais, ouais, mon inquiétude, est-ce que déjà le fait que le budget, ou du moins c'est le personnel, prend la grande partie même d'ailleurs du budget dans ces ministères, est-ce que ça n'agit pas, ça n'impacte pas les projets, l'exécution même des projets?
Évidemment, évidemment. Et c'est ça même le travail qu'a effectué la Cour des comptes pour relever où va l'argent de l'État. Est-ce que ça va réellement dans les programmes qui ont été élaborés ou ça va ailleurs? Et donc, dans la recherche...
Il faut sévir.
Et justement, ce que la Cour demande désormais à chaque ministère, c'est de faire des prévisions de crédit de personnel pour chaque programme. Et donc, on sait que s'il y a un programme qui doit absorber 1 milliard... Donc, qu'on fasse la répartition avec le budget de personnel. Et donc, à partir de ce moment, on ne pourra plus faire des dépassements, des dépenses de personnel. Mmh. Je crois que c'est la solution, sinon c'est la recommandation de la Cour des comptes. Et là, c'est au ministère des Finances d'appliquer désormais cela. Parce que l'exemple qu'on a donné tout à l'heure... Et quand le ministère du Tourisme a été scindé, maintenant, au niveau de la culture, il y avait déjà des programmes qui étaient en exécution. Et donc, qui, désormais, va exécuter cela? C'est au nouveau ministère de mettre en place quand même une commission ou un comité pour gérer les dossiers qui étaient gérés au ministère du Tourisme. Or, si le programme est déjà en cours, ça veut dire que ceux qui étaient déjà là vont continuer pas travailler. Et donc, automatiquement, le ministère de la Culture, le nouveau, sera obligé de payer. Et donc, c'est ça qui fait que ce que le ministère même a mis en place comme commission ou comité, ce personnel sera payé. Et le personnel qui travaillait avant aussi sera payé. Et donc, ça fait une augmentation des dépenses de personnel pour ce ministère. C'est un exemple que nous donnons.
Mais justement, on va aller un à un.
Oui,
Isidore. Est-ce que déjà, avec cette recommandation de la Cour, est-ce que la Cour peut aller au-delà de la recommandation? Ou peut-être c'est la justice qui doit s'en servir?
La justice doit s'en servir, s'en saisir. Et aussi, moi, je dis, le peu que je connaisse de la gestion d'un projet, quand vous faites un projet, le comité de pilotage a son salaire dedans. Bien sûr. Qu'on ne nous dise pas que c'est le jeu à tel ministère, donc c'est le ministère qui vous prend en charge. Non. Même dans nos petites associations.
Non, mais bien sûr, dans le budget.
C'est pas aujourd'hui
dans le budget,
cette recommandation viendrait.
Non, dans le budget.
Oui.
Il y a chaque ministère à sa part. Et donc, désormais, quand la culture est allée à la communication, c'est la communication qui va prendre le budget de la culture.
Oui, non, mais il ne veut pas du comité.
Il faut comprendre. En tout cas, vous savez, cet argument-là ne convainc pas.
Ça ne convainc pas.
Parce que ce ne sont pas des fonctionnaires. Quand on détache, je pense que c'est l'expression, on détache quelqu'un d'un poste ou d'un ministère à un autre, bénéficie tout simplement des perdièmes ou, je ne sais pas, certains avantages. Indemnité, justement, compte tenu d'une compétence qu'on a voulu, etc. Mais son salaire reste là où il est logé. Il y a plein de départements, même des directions, où des gens sont rattachés.
Puisqu'ils restent fonctionnaires.
Bien sûr, même dans le domaine militaire, même ça existe. On rattache, mais tu es lié à ton régiment d'antan.
Oui.
On ne va pas dire que voilà... Tu es détaché, donc justement, c'est le ministère là. Tu bénis
bien. On n'invente rien.
Oui, je suis d'accord.
On n'invente rien.
Ça ne me convainc pas.
C'est un rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes ne peut pas dire qu'on va jusqu'à 123 000.
Non, personne ne critique.
Personne ne critique.
C'est l'argument donné par le ministère. à la Cour des comptes, nous on dit ça ne nous convainc pas.
Ah oui,
c'est tout simplement.
C'est une réaliste que nous
Non, mais attends, on est d'accord.
Oui, d'ailleurs même, c'est normal, parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, parce que lorsque vous avez vous avez un nombre exponentiel de contracteurs, mais c'est tout à fait normal qu'on puisse arriver à cela. Ça n'étonne personne.
D'accord.
On va quitter le sujet.
C'est la preuve de la malgouvernance. En principe, ce truc-là, ce n'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui.
Oui, et j'avoue que, la Cour, pour faire ses recommandations, s'est basée également sur ce qui se passe dans d'autres pays. Puisque le phénomène n'est pas propre au Togo. Mmh. Le phénomène est identique dans plusieurs pays. Et donc, la Cour a pris tous ces exemples-là pour dire, ailleurs, voilà comment ça se passe. Et nous pensons que, si c'en est ainsi, nous aussi, nous pourrons y arriver en faisant
rationaliser les dépenses.
On va quitter le sujet.
On va quitter le sujet. Je sais que c'est un sujet passionnant. Mais on va quitter le sujet. On s'intéresse à ce sujet qu'évoque Adam, Vision d'Afrique. Ce matin, vous écrivez à la une de votre journal reportage parlementaire éclairé et rigoureux. L'Assemblée nationale du Togo forme les journalistes. Alors, aujourd'hui, oui, c'est vrai, la semaine dernière, nous avons appris que le Parlement a formé, ou je vais bien parler de l'Assemblée nationale, puisque le Sénat n'est pas encore mis en place, l'Assemblée nationale a formé et les journalistes pour un reportage rigoureux, des reportages éclairés sur les informations parlementaires. Là, je pense que c'est une bonne chose.
Oui, vous savez, il y a très longtemps que les lois sont votées et la population ne s'y intéresse pas. Mais lorsque ces tests-là sont appliqués à la population, c'est là où on retourne en arrière pour voir en réalité quel est le contenu donc de ces tests-là votés. Et justement, vous allez constater qu'il y a un désintéressement total au niveau de la population en ce qui concerne la chose parlementaire. Ça, ce n'est pas du nouveau. Puisqu'on nous dit que les débats sont publics, même si nous savons que il y a des restrictions entre-temps dues à la COVID qui ne permettent pas, en tout cas, à la population désireuse de pouvoir suivre les débats parlementaires, d'y avoir accès. Donc, je pense que depuis le magistère de Kolio Adeje Sevon, il a eu quand même à introduire des nouveautés pour rapprocher ce Parlement-là à la population. C'est ce qui se dit parce qu'il veut aujourd'hui que le Parlement soit des réponses dédiées donc aux questions de la population. Comment peut-on comprendre que un Parlement qui est là, qui a voté véritablement dans ces parlementaires, ne puisse pas s'intéresser à leurs actions, à leur vote. Donc, ce sont des innovations qu'il a introduites, mais passant par les médias. Je rappelle que c'est un premier round de formation, ça va se poursuivre, puisque sa logique, c'est justement faire en sorte que tous les médias soient informés et qu'ils puissent donc s'intéresser, et à défaut d'avoir la population qui fasse le déplacement, que les journalistes puissent avoir les éléments nécessaires pour donner la bonne information en ce qui concerne donc l'action parlementaire. Et que cette action parlementaire, vous savez, c'est lié également au contrôle de l'exécutif qui a toujours commencé. Vous avez constaté que depuis, on a commencé par constater que les ministres sont invités sur telle ou telle question, ils viennent donc répondre. Il faudrait quand même que le journaliste sache véritablement comment traiter ces informations-là. C'est ce qui a motivé l'introduction de cette nouvelle approche introduite par le ministre Adeje pour rapprocher naturellement l'Assemblée de la population. C'est vrai, on peut s'interroger sur la question de cette nouvelle constitution qui, pour certains, est le facteur primordial. Mais je dis, ce n'est pas autant ça. Mais ça aussi, c'est également une question qu'on se pose. Mais c'est justement faire en sorte que toute l'action parlementaire puisse être proche de la population.
D'accord. Alors, Isidore, c'est vrai que Adam évoquait le fait que la population n'est pas très intéressée par ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que c'est juste une question d'information ou bien c'est au-delà de cela?
C'est au-delà de cela. Parce que l'Assemblée nationale a deux prérogatives. Légiférer et contrôler l'action du gouvernement, c'est tout. Moi, je ne veux pas même l'opportunité de former les gens sur ça. C'est une mine d'informations, l'Assemblée nationale. Tout journaliste doit avoir accès. à toutes les lois qui sont votées. Ils ont même un site dédié, mais qui n'est jamais actualisé.
Actuellement, ça s'est amélioré.
Non, mais je parle de ce que je sais. Et même moi, je n'y vais plus.
À l'Assemblée.
À l'Assemblée. Parce que c'est logé à un milieu hostile.
Comment ça?
À la population.
Comment ça, c'est un milieu hostile?
Vas-y voir. Les mesures de sécurité. Toutes ces choses-là. Avant, quand l'Assemblée nationale était au palais des congrès, moi, j'y allais. À tout moment. C'est accessible à la population. Vous voyez, là où on a placé l'Assemblée nationale, ce n'est pas accessible à la population.
Comment ça?
Je te parle des mesures de sécurité. Hein? Et même l'endroit où c'est niché là-bas, là. Oh, attention. Il faut avoir le courage d'y aller. Hein.
Mais les gens y vont.
Je parle du factuel. Hein. Qui va quitter Bay pour aller là-bas, un citoyen lambda, ou Kodiva Kopé, ou à Guanivé.
Ce que Isidore dit, quelque part, moi, je pense que...
Laisse Isidore aller à la fin de son idée.
Donc, voilà. Hein, d'abord, là où c'est logé, aujourd'hui, ce n'est pas accessible à la population. Seuls les initiés auront le courage d'y aller. Parce que si quelque chose advenait là-bas, tu ne sais pas où passer.
Oui, c'est pourquoi le président veut véritablement donc démystifier cela.
Mais
Pascal, ce que
je veux dire, l'opportunité de cette, je ne vois pas l'opportunité, puisque en principe
de cette formation pour les journalistes.
Alors, tout ce qui se passe à l'Assemblée, un journaliste digne de ce nom doit avoir accès et l'exploiter comme il l'entend, comme ils le veulent. On n'a pas besoin d'une formation. C'est ce qu'on appelle des sources ouvertes.
Oui.
D'accord. En matière.
Alors, merci beaucoup, Isidore.
En matière de traitement des formations, c'est les sources ouvertes.
Merci beaucoup, Isidore. Oui, mais Eric.
Isidore, je pense que le président de l'Assemblée nationale a bien dit quand même que on communique mieux que ce que l'on connaît. En réalité, le journaliste a besoin de se faire former dans chaque domaine. Pourquoi? C'est très important, le langage parlementaire. Lorsque le parlementaire parle, il peut dire des choses très simples, mais qui sont véritablement profondes. Et donc, si le journaliste ne maîtrise pas ces propos-là, ce langage parlementaire, il aura des difficultés à l'analyser et apporter cela à la population. Une loi a déjà une connotation juridique.
Je n'en dis que ça ne revient pas.
Alors, quand tu me dis que ce ne sont pas des thèmes juridiques, je dis non, Isidore. Toute loi a une connotation juridique. Parce que il suffit de prendre une loi. Vous savez, on a été tous là quand on a dit que l'Assemblée a voté la quatrième et la cinquième république.
La nouvelle constitution.
La nouvelle constitution. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que dans la constitution de 92, on a dit qu'il faut, pour changer la constitution, aller à un référendum. Dans la même constitution, on dit que les 4 cinquièmes, lorsqu'ils votent, on peut changer la constitution. Mais là, juridiquement, tout le monde a raison. Mais le langage parlementaire dit que tout ce qui est contenu dans la Constitution doit être appliqué. Si le journaliste, pour faire son analyse sur cette situation, ne maîtrise pas ce langage-là, il sera tout faux. Je pense plutôt que ces formations-là sont vraiment importantes pour les hommes des médias.
Est-ce que finalement, ce n'est pas une forme d'orientation de l'information? Vous n'avez pas encore terminé?
Non, rapidement.
On a eu l'impression que vous avez terminé.
Non. Comme Adam a pris la parole.
Allez-y. Non, on vous écoute.
Non, il y a autre chose. Isidore parlait du site de l'Assemblée nationale. Le site fait de la communication pour l'Assemblée nationale. Voilà. Mais le travail journalistique veut qu'on aille au-delà de la communication pour porter même des critiques et pourquoi pas écouter les populations sur des lois qui sont votées pour pouvoir les analyser. Et ça aussi, ça permet. Parce que je dis ici, aujourd'hui, 113 députés à l'Assemblée nationale, 108 sont unis. Quelle difficulté on aura lorsque UNIR va porter un projet de loi pour ne pas...
Une proposition de loi.
Un projet de loi qui vient du gouvernement.
Du gouvernement.
Hein, du gouvernement. Et donc,
Il est important de cerner plutôt.
C'est
cette terminologie.
Comment alors ces lois ne vont pas passer à l'Assemblée comme une lettre à la poste? Et donc, je dis toujours que si on est dans cette configuration, il faut que les projets de loi, les propositions de loi sortent de l'Assemblée pour faire objet de débats publics et que les partis politiques, elle sera parlementaire et la société civile participe.
Adam, je posais une question et c'est une inquiétude à moi. Est-ce que déjà, d'une manière subtile, l'Assemblée nationale n'est pas en train de donner alors un élément de langage
d'orienter
même l'information.
Tout à fait. Je pense que l'une des appréciations d'Éric a déjà répondu à cette question. Justement, pour revenir, je pense que tous ceux qui connaissent ADD connaissent véritablement la finesse de l'homme à ce qui concerne son travail. Mais lorsqu'il est arrivé à l'Assemblée nationale, effectivement, il a constaté qu'il y avait un mythe entourant la chose, etc. Il dit non, démystifiez-moi tout ça. Il faudrait que quand la population a besoin du président jusqu'au député, que la population puisse avoir accès facile. Ce sont des élus. Eux, ils sont là pour être à côté de la population. On ne peut pas comprendre pourquoi on peut entourer ça. Bon, c'est vrai, les questions sécuritaires, nous connaissons, etc. Mais justement, parce qu'il y avait un point entre-temps où les journalistes certains sont revenus là-dessus, que lorsqu'ils veulent aller à l'Assemblée, etc., ils ont des difficultés liées à la Covid, mais également à des situations sécuritaires. Et il a dit, aujourd'hui, il donne la réponse. Il faudrait quand même que lorsque, que soit la population, et à plus forte raison, un journaliste puisse avoir accès, donc l'information est là. Mais justement, donc pour répondre à votre question, tantôt Eric le disait, justement, lorsqu'on pose des choses au niveau du site de l'Assemblée nationale, il y a le directeur de la communication également, qui est très actif, qui fait événement, des véhiculés, des articles, on pique et les gens passent à l'intégrale. Le président dit, ce n'est pas normal. Il faudrait quand même que le journaliste puisse faire des appréciations sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est justement pour faire en sorte que cette orientation qui, entre griffes, était la mode par le passé, puisse s'estomper. Et justement, il veut que le journaliste puisse avoir accès à l'Assemblée, faire ses propres critiques. Et vous savez, Adélie l'a toujours dit ainsi, justement en disant en fait que lorsque vous avez des journalistes pour soi, vous avez beaucoup de journalistes contre soi. Donc faire en sorte que tous les journalistes viennent faire leur propre appréciation, ça pouvait les amener à améliorer un temps soit
plus. Vous pensez qu'il y a orientation?
Il y a orientation. Moi, je dis qu'on n'en a pas besoin. Il me parle tantôt de langage parlementaire. Mais nous tous qui sommes ici, on peut être parlementaire.
Oui, mais si c'est journaliste parlementaire.
Non,
on laisse Isidore.
Nous sommes tous des citoyens. Hein? Si on a une visée politique, on peut aller aux élections législatives.
Pour devenir député.
Devenir député. Mais c'est à ce moment-là que je dois apprendre le langage parlementaire dont il parle.
Mais en tant que journaliste, est-ce que nous n'avons pas besoin de ce langage parlementaire pour expliquer et donner des informations?
Ce que nous avons, ce dont nous avons besoin, c'est qu'on nous mette à disposition toutes les lois votées. Et nous allons faire notre propre appréciation de la chose.
Mais comment traduire aujourd'hui ces lois? Comment traduire aussi ces lois et simplifier même les choses à la population?
Ce n'est pas à eux de nous le dire.
Non, mais
ce n'est pas à eux de nous le dire.
Mais vous, en tant que président, non plus, vous ne l'avez pas fait.
Ce faisant, il y a une orientation. Qu'on s'entende là-dessus.
Non, mais ça a été
partout ailleurs, hein. Même si vous arrivez partout en France, mais c'est une mine d'informations. L'Assemblée est une mine d'informations.
Ça a été clair là-dessus.
Qu'on mette à disposition toutes les lois qui sont votées, les interpellations, et non de nous balancer des articles à publier comme tu le dis.
D'accord.
Non.
Ok.
C'est l'essentiel.
C'est l'essentiel.
Mais quand tu vas sur le site. Tu es allé. Je n'y suis pas allé. Peut-être tu as été formaté déjà.
Non,
moi, je
ne suis pas allé.
Bon. Mais je dis que ce qui vaille la peine d'être fait, c'est de mettre à disposition toutes les lois qui sont votées sur le site. Ils ont un site dédié
à l'Assemblée nationale.
Mais aussi transmettre et faire la retransmission en direct des débats.
Sur l'Assemblée nationale.
C'est très important.
Toutes ces informations qu'on
doit
On quitte le sujet.
HCR, vous vous souvenez de ça?
Justement, c'est bon. On va quitter le sujet. Eric, on va s'intéresser à ce congrès de MPDD du feu Agbeyome Kodjo. Et aujourd'hui, à la tête alors du parti, il y a un nouveau président, c'est Jonas Siliadin, et qui a été élu le samedi dernier à 86 voix sur 90. Alors, finalement, est-ce que vous avez été étonné ou du moins surpris de voir Jonas Siliadin à la tête du parti?
Non, pas du tout. Parce que Jonas Siliadin a toujours été un homme de main de feu Agbeyome Kodjo. Il a fait tout son parcours politique sous Agbeyome Kodjo. Et je crois que s'il faut parler très simplement, ce n'est qu'une reconnaissance des membres de ce parti-là, en la personne de Siliadin Jonas. C'est vrai qu'il n'était pas sur place, mais j'avoue que il était le plus proche de tous les membres de ce parti-là à Agbeyome Kodjo. Il était à l'extérieur, mais pratiquement tout se faisait avec lui. Et quand il revenait au pays, et c'est pour de grandes occasions, quand le parti veut faire ses sorties, quand le parti veut se prononcer sur des sujets importants, il est là et on le voyait toujours à côté de feu Agbeyome Kodjo. Donc pour moi, je ne suis pas surpris. Au contraire, je voudrais plutôt lui dire que il est en train de prendre en main un lourd héritage, connaissant la personne de Agbeyome Kodjo. Et donc, je lui dis qu'il faut qu'il tienne vraiment bon. D'abord, vous savez, gérer un parti politique, ce n'est pas chose aisée. Il faut des moyens. Et pour avoir ces moyens-là, il faut travailler. Et donc, je lui demande de travailler, d'aider les autres membres du parti à travailler également pour que ce parti-là ne laisse pas l'héritage d'Agbeyome par terre. Il faut que le feu qu'a la flamme qu'a allumée Agbeome Kodjo continue pas briller. Et donc, je ne suis pas surpris. Maintenant, on va voir si lui va faire les choses autrement pour que le parti puisse aller de l'avant.
Alors, quand vous dites faire les choses autrement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, vous savez, le parti MPDD a eu des hauts et des bas. Et donc, il faudrait que ce qui est haut soit véritablement visible et que cela profite à tous les partisans et sympathisants. Et donc, si Yadin doit travailler, il doit faire en sorte que ce qui est haut soit encore plus haut et ce qui était bas, que ça devienne haut.
D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Isidore, déjà, quand on voit le statut alors de Jonas Iliadin, est-ce qu'il est habilité à relever le défi de ce lourd héritage, si je veux bien emprunter le mot de Eric, de relever vraiment ce défi?
Non, moi je l'ai suivi sur les ondes et autres. Je sais que bon, il veut faire un recadrage. Il veut remettre le parti à l'endroit. Suivez mon regard. Siliadin a toujours été le lieutenant de Agbeyome. Il fut son directeur de cabinet quand il était premier ministre. Il a accompagné partout. Moi, j'ai connu, nous sommes pratiquement de la même promotion, hein, et avec Bébé Sou. Donc, c'est dépend du régime. Moi, j'ai toujours dit que...
Bon, vous ne pouvez pas avouer ça comme cela, Isidore.
Je sais de quoi je parle.
D'accord, allez-y.
On a fait ensemble.
Allez-y.
Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle.
Allez-y.
Je n'ai pas la langue dans ma poche. Je les connais très bien. Et aujourd'hui, même l'orientation, depuis Obu, vous avez connu l'épisode de Vidada, non?
Oui.
Qu'est-ce qui s'était passé? Mais c'est que Agbeome, c'était un opportuniste, excusez-moi le terme, qui a voulu recentrer Obu ou MPDD, hein, dans l'opposition. Disons les choses telles qu'elles sont. Obu est une marchande du MPT. Agbeome a fait toute sa carrière, tout comme Siliadin, au sein du RPT. On se connaît. Donc aujourd'hui, moi, je l'ai suivi sur une... Bon, il dit que, bon, on a calé les statuts, que, bon, il serait extrêmement centre.
Centre, oui.
Qu'il peut faire alliance avec qui il veut. C'est à demi-mot. Comprenez à demi-mot ce qu'il est en train de faire. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas. Il est venu recadrer et le MPDD, c'est bien ça, non?
Justement, MPDD.
MPDD. Je ne sais pas, mais je ne sais pas s'il sera accepté de l'autre côté. Hein, parce que de l'autre côté, aujourd'hui, le slogan, c'est que soit tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous. Unis n'a plus besoin des ailes marchandes. Moi, j'attends de voir ce qu'il va faire.
D'accord. Adam, est-ce que vous attendez aussi ce qui va être fait? Et si aujourd'hui, on prend le MPDD, c'est quoi le défi à relever?
Vous savez, même avant de répondre à votre question, j'aimerais faire comprendre et faire savoir que, vous savez, lorsque nous prenons tous les partis politiques, surtout majoritairement de l'opposition, dirigés par le pionnier, pour certains qui sont décédés, mais j'ai certains également qui ont perdu de leur aura sur la scène politique. Obu est l'un de ces partis-là qui...
Obu est MPDD.
Bon, de toutes les façons, l'un ressemble à l'autre, c'est la même chose. Donc, qui a été stable depuis la disparition de son pionnier? C'est un parti, on n'a pas connu ce qu'on a connu ailleurs, où il y avait des guerres de clans, etc. C'est un parti qui a été donc stable. Ça veut dire, le lourd héritage laissé par Agbeome Kodjo, puisque Eric en parlait tout à l'heure, en parlant donc de l'héritage du MPDD, il y a de la discipline qui a une fois aussi régné. Donc je pense que, pour répondre maintenant à votre question concernant donc les défis, étant donné que la nomenclature politique également a changé, il faudrait faire en sorte que le narratif du parti également puisse s'adapter à la nouvelle donne. Faire en sorte que les ambitions du parti puissent être des ambitions nobles qui tiennent compte que ce soit un parti de l'opposition ou, je pense pas, centriste, comme lui-même il le dit, puisqu'il est très difficile, je pense que c'est un acronyme né dans nos pays, un parti centriste, on n'en connaît pas en réalité assez trop. Parce que nous sommes dans un endroit, comme il le dit, le parti au pouvoir ne veut pas de satellite.
Soit froid.
Ne veut pas de parti satellite, soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. Donc, je pense qu'au but, s'il veut rester parti d'opposition...
Non, mais MPDD, pourquoi vous confondez ?
MPDD, s'il veut, tel qu'il veut rester un parti politique de l'opposition, qui puisse véritablement donc tenir compte des ambitions et de l'environnement politique qui lui permettra véritablement donc d'être vu comme un parti politique de l'opposition.
D'accord. Il est pratiquement midi, passé de deux minutes. Nous allons donner aussi la parole à nos auditeurs.
J'avais oublié de donner une réponse à Isidore tout à l'heure. Quand il parlait de choses de l'Assemblée nationale qui est dans un milieu hostile, je voudrais lui dire qu'au Bénin, l'Assemblée nationale est à Porte-Novo.
Oui, mais à Porte-Novo, c'est accessible.
Ça relance le débat. On donne maintenant la parole à nos auditeurs qui s'impatientent aussi à participer à ce débat avec nous. Nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs et on revient juste après. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Premier auditeur en ligne, allô?
Allô?
Oui, bonjour Papa Sourdiné.
Bonjour.
Comment vous allez?
Oh, ça va, je crois que vous ça va aussi.
Ça va aussi, par la grâce de Dieu.
Ok.
Allez-y.
Concernant MPDD là.
Oui.
Surtout la majorité de gens ne croient pas aux centristes là. On le voit justement qu'ils sont du pouvoir. Si quelque chose arrive, ils votent de la part des pouvoirs. Mais certains journalistes aussi ne savent pas aussi que Porto-Novo est la capitale administrative du Bénin.
Non, comment ça certains journalistes ne savent pas? On le sait très bien. Ça, c'est
vrai?
Oui, mais on le sait.
Mais à la fin, le Parlement là-bas n'est pas difficile. Hein. Mais ici, là où se trouve le Parlement, là, on a aucun d'aller. C'est ce que je voudrais dire. Quoi. Bonne journée.
D'accord. Merci beaucoup, Papa Sordiné, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 315. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Ça va, M. Mahouto.
Oui, M. Mahouto, allez-y.
C'est ça le plateau. Ma question à M. Eric. À voir la situation de notre Assemblée nationale au Togo. Est-ce qu'un jour, le peuple togolais peut faire une marche de protestation du cas marché à aller à l'Assemblée nationale, selon lui? Deuxième préoccupation, par rapport à l'arrivée de M. Jonas Siladin à la tête de Ovila, pour moi, c'est un non-événement. C'est le pouvoir député unique qui a trouvé un allié. Sinon, si les bassins qui le croient au Togo que M. Siladin serait un opposant au régime uni. Merci et bonne émission.
Merci pour votre intervention. C'est votre avis aussi. Et votre avis, nous comptons bien sûr. Enfin, nous reprenons. Alors, nous prenons votre avis dans cette émission 90, 80, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez également réagir dans cette émission Club de la Presse. Allô? Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, Canal FM.
Comment vous allez?
Je vais bien, vous.
Ça va aussi. Votre nom, c'est?
Je suis Mathieu Davenou.
Mathieu Davenou. Allez-y, monsieur Mathieu.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Merci. J'ai un vieux constaté.
Oui, allez-y.
C'est quand vous prenez la voie, quand vous êtes au niveau de protestants, de tour de protestants, quand vous allez vers la ville, ou bien quand vous voulez tourner, aller vers Ramco, c'est le même feu rouge qui guide aussi ceux qui viennent de la ville, ceux qui viennent de l'hôpital. Maintenant, il s'avère que nos pères de force de sécurité, ils sont dans l'angle comme si on va vers Ramco. Et quand tu tournes pour aller, on t'arrête. Alors qu'obligatoirement, il faut qu'il y ait un feu rouge, il faut qu'il y ait un feu rouge d'abord, avant que tu ne puisses tourner, puisque les deux doivent s'arrêter avant que tu ne passes. Mais curieusement, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi je voudrais attirer leur attention. pour leur faire savoir que ce qu'ils font, ce n'est pas normal. Parce qu'il n'y a pas un peu vert pour ceux qui vont tourner à gauche.
D'accord.
Moi, je n'ai pas été pris, mais j'ai vu plusieurs fois, on a pris des gens qui ont trouvé ça malhonnête.
Effectivement, j'ai vu aussi des gens qui ont été pris hein, dans ce pour aller vers Badago. Il suffit simplement que vous allez, enfin, vous quittez le feu vert pour aller là. Et si le feu était rouge avant que vous ne quittiez, automatiquement, on vous arrête. Alors, oui, Mathieu, merci beaucoup pour ce vu et constaté. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse de ce mardi. 90, 86, 35, 35. Allô?
François, bonjour.
Bonjour, Basile. Comment vous allez?
Je vais tout simplement bien.
D'accord. Allez-y.
Ah, c'est pour le tout goût, vu que nous, on est bien. On ne finira jamais de le dire. Le Togo, aujourd'hui, nous sommes là-dedans et tout le monde avec. Il y aura des gens, même les gens peuvent aller dans Gébo, qu'on fait dans les maisons qui n'ont pas de moyens. Ils vont aller là-bas chercher à manger. Il y aura toujours des gens qui vont venir et défendre la position de ceux qui nous gouvernent. Ça, c'est un choix. Personne ne peut refuser ça. Bon, pourquoi est-ce que on ne peut pas comprendre qu'on peut faire mieux et que les gens ne vont pas aller chercher à manger là où ils ne doivent pas manger? Et que nous, on va être là toujours, quand on dit ceci, on va toujours trouver à dire à côté. C'est ce que moi, je ne comprends pas.
Basile.
Oui.
Mais je suis intéressé par votre analyse sur un sujet débattu ici au Club de la Presse.
Mais
nous avons parlé de beaucoup de sujets. Choisissez, oui. Choisissez un de ces sujets et analysez ce sujet-là. C'est ce qui nous importe.
On dira même que j'ai tout globalisé. Hein?
Non, mais vous avez tout globalisé, mais vous ne dites rien. Excusez-moi de le dire.
Ah, d'accord.
Oui, oui, sincèrement. Parce que dites-nous que, mais oui, vous avez parlé de l'Assemblée nationale. Moi, je pense que ceci, ceci, ceci. Et là, je serai plus intéressé.
Ah, ouais, je comprends.
Voilà. Alors, merci beaucoup.
Oui, je ne dois pas être vraiment quelqu'un de langue de bois. Je vous écoutais et le taxi et vous aussi. Donc, franchement, je sais que j'ai écouté tout dans un ensemble. Je ne sais pas ce que je dis là, si c'est à vous que ça doit venir ou pas.
Ah mais justement, si vous nous avez suivis de bout en bout, je pense quand même que vous choisirez un sujet débattu et là, vous allez faire votre commentaire là-dessus.
Ah, vous voulez que j'appelle un sujet?
Mais c'est ça le principe de l'émission. D'accord, c'est que quand vous nous appelez.
D'accord, je ne dois pas perdre le temps.
Bah, justement, ne perdez pas le temps aux autres. Tout à fait, merci beaucoup. Et merci de laisser la place à d'autres personnes. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo, chef.
D'accord, allez-y.
Ouais, je pose ma question d'abord pour ne pas oublier, peut-être à tous les plateaux. Hein. On entend Togo parti du pouvoir de l'opposition centriste. Bon, quand les journalistes analysent là, on sent les positions. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ceux qui sont de l'opposition, si quelqu'un de l'opposition qui s'affirme sur le plateau là-bas, si quelqu'un du pouvoir qui s'affirme, ou bien s'il est centriste, c'est-à-dire chacun doit avoir un penchant, quoi. Vous, en tant que journaliste, vous êtes de quel côté? Centriste, opposition ou du pouvoir? Donc, vous qui êtes là-bas, chacun va me donner sa position.
Monsieur Nyamavo.
On ouvre en train de MPDB que nous avons soutenu à Béomé aux dernières nouvelles. Parce qu'on dit que même si dans le régime, quelqu'un voudrait un changement, il dit que ça ne va pas. On va le soutenir. Mais c'est avec un peu de déclos qu'on a vu que ça n'allait pas, on a changé la constitution. Mais lui, j'ai encore indiqué les centristes. Ah, mais je comprends. On s'aligne derrière tout le peuple qui est fatigué, qui dit que vraiment, il n'y a plus d'opposition au Togo. Bonne émission, en souhaitant bonne chance aux éperviers pour les prochains matchs.
D'accord. Merci beaucoup, M. Nyamavo. 90, 86, 35, 35. 91, 36, 63, 65. Allô?
Allô.
Oui, bonjour. Allô. Madame Messi.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
On roule, mais bon, on s'est arrêté.
D'accord.
Pour participer. J'ai fait un coucou à tout le monde, à vous tous là-bas.
D'accord.
Aux politiques, aux opposants, qui abattent un travail de titan. Et à M. Olu, et Basile, Namavo. Voilà. Bon, vous avez parlé, moi j'ai pas suivi, hein. Mais je sais que vous avez parlé de l'Assemblée parce que, par exemple, vous avez Pascal. Rien n'est vrai. Les députés, tout ça là, tout est faux. Il n'y a rien qui soit vrai au Togo et en Afrique en général, quoi. Parce que les gens ne sont pas sérieux. Et vous avez parlé de MCDD. Parlons-en. Le MCDD aussi était à l'Assemblée quand on nous a brandi la 5e République. Ils y sont. Les députés nommés de 18, comme Pedro le disait là. Ils étaient là-bas. Et puis, ils étaient le chef, le président des lois. Quand on nous a charcuté la Constitution en 2018-2019, je crois. Et puis, on a réduit les mandats, tous les mandats du régime à zéro. Moi, je disais dans ce temps-là qu'on est en train de monarchiser le Togo. Je disais en ce temps, c'était le MPDB toujours qui a été donc, par le dessin président des lois. Hein, voilà. Et maintenant, ils sont centrés sur tout. Il faut que les gens arrêtent. Les gens n'ont qu'à arrêter dans ce pays et puis les gouvernants doivent savoir qu'ils doivent alterner. Ils doivent passer la main. Pour qu'on soit bien, quoi. Il y aurait plus d'entrée de tout ce désordre. Voilà. Faut qu'ils alternent pour que ça aille bien. Merci.
D'accord, merci beaucoup, Madame Messi, pour votre intervention. Vous êtes la dernière auditrice pour le compte à l'heure de l'émission de ce mardi. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Alors, Adam?
Oui. Moi, j'aimerais interpeller le gouvernement. Vous savez, le développement d'un pays repose sur son modèle institutionnel. Le modèle institutionnel togolais a permis au Togo de faire des bons qualitatifs. Le dernier en date était donc le rapport Biredi, où le Togo a fait également des bons. Donc j'aimerais, sur cette approche-là, dire véritablement, revenir sur la question de la contractualisation qui s'est révélée étant donc une préoccupation de la Cour des comptes. Faire en sorte qu'on puisse avoir, pourvoir à des postes lorsque les gens sont admis à la retraite, pour permettre en réalité à ceux-là qui ont signé des contrats de pouvoir bénéficier de la plénitude des avantages du poste. Vous savez, lorsque vous êtes contractuel, c'est vrai qu'on vous calcule les mêmes choses avec les fonctions, mais vous ne bénéficiez pas de certains avantages. Donc faire en sorte que ceux-là, c'est vrai, ce sont des Togolais qui sont à ces postes-là, mais faire en sorte qu'ils puissent bénéficier de la plénitude des avantages du poste, et donc pouvoir à ces postes-là que d'éviter dans ces contradictions dénoncées naturellement par la Cour des comptes.
D'accord. Eric?
Oui, je pense que tout ce que nous avons dit ici par rapport à l'Assemblée nationale, c'est juste la formation des journalistes sur le travail parlementaire. Et donc, c'est très important que nous, en tant comme de médias, nous assimilions le langage parlementaire pour pouvoir analyser les lois qui sont votées et le travail de veille gouvernementale pour pouvoir exposer cela à nos compatriotes. Aussi, nous avons le devoir d'écouter nos compatriotes sur les lois qui sont votées et de quelle manière les compatriotes, nos concitoyens souhaiteraient quand même que ces lois soient appliquées. Parce que aujourd'hui, avec la nouvelle configuration, je le disais tantôt, les lois vont passer très rapidement, mais il faut quand même un débat autour de ces lois-là. Et c'est à nous, journalistes, de porter quand même l'information aux populations. Donc, quand je disais que l'Assemblée nationale du Bénin se trouve à Porte-Novo, qui est la capitale politique du Bénin, c'était juste pour dire que les journalistes
pour la plupart, qui sont à Cotonou, vont se déplacer pour aller à Porto-Novo. Et là, c'est des frais et tout ça pour les rédactions. C'est tout ce que je voulais dire.
D'accord. Oui, Isidore ?
Non, moi, je ne parle pas de, du parcours qu'il faut faire pour aller à l'Assemblée nationale. Hein.
Je ne parle plus de toi, je parle de l'auditeur.
Moi, je parle seulement de l'accessibilité. Hein, de quoi appelle-t-on du Parlement, parce que c'est les représentants du peuple. Il faut que ce Parlement soit accessible au peuple. Mais l'endroit où c'est niché aujourd'hui, les gens ont peur d'y aller. Les gens ont peur d'y aller. C'est tout ce que moi je voulais relever, y compris moi-même. Parce qu'il y a des labyrinthes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas accessible. Bon, bref, ce qu'on vient de dire, dépassement du budget,
des dépenses,
de dépenses tout là, mais écoutez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais personne n'a daigné taper du poing sur la table. Sans cela que, il faut interpeller le premier des Togolais, c'est le président de la République qui doit prendre ses responsabilités et sévir. Et sévir.
D'accord.
C'est très important.
Il y a Mavo qui a posé une question concernant le bord politique des uns et des autres, surtout les journalistes. Je ne sais pas si vous voulez vraiment répondre à cette question.
Non, moi, on peut me chercher partout. Hein. Depuis tant d'Yadema, vous ne verrez jamais ma carte de membre dans aucun parti politique. Mais j'avoue que je suis proche de l'opposition. J'ai une affinité pour l'opposition. Peut-être c'est par déformation professionnelle. Moi, je suis toujours du côté du plus faible.
D'accord. Eric ?
Est-ce à dire que l'opposition est faible?
Oui, mais écoutez, pas tout à l'heure, l'opposition est toujours faible.
Non, mais quelqu'un vient de dire que l'opposition n'existe plus.
Mais c'est ce que je dis.
Et donc en tant que journaliste, je pense qu'il ne faudrait pas trop s'afficher politiquement. Il faudrait plutôt être là pour le peuple, comme Isidore l'a dit. De ce que l'on peut faire pour que le pays puisse aller de l'avant, c'est ce qu'il faut faire. On n'est pas journaliste pour un camp ou l'autre. C'est vrai, il y a des tendances, mais quand vous regardez ailleurs, il y a des
même sous d'autres cieux, bien sûr, voilà. Il y a des tendances.
Il y a des tendances, mais il ne faudrait pas quand même dire que je suis proche de tel et tout ce que l'autre fait est mauvais. Sinon, on n'irait pas de l'avant.
D'accord. Oui, mais Adam, vous êtes de quel bord ?
Non, c'est vrai que il y a la ligne éditoriale, comme Eric l'a dit. Mais justement, nous sommes du bord du peuple. On traite l'information, on la met à la disposition de la population. Point barre.
C'est l'essentiel. Alors, Eric, il y a justement cette coupure hier du courant. Et vous voulez vraiment nous dire quelque chose là-dessus avant qu'on finisse ?
Ah oui, c'est vrai. Et hier, effectivement, il y a eu coupure d'électricité.
Pratiquement générale, hein ?
Oui, générale, tout simplement. Parce que, quand on a fouillé, on s'est rendu compte que la centrale Kekeli était en panne. Et donc, ils ont essayé de régler ça jusqu'à 18 heures. Mais pour reprendre, ça a pris des heures. C'est jusqu'à 21 heures au-delà que le central Kikreli a repris. Mais c'est un concours de deux situations. Il y a également un blackout au Nigeria. Le Nigeria qui nous fournit du courant. Et donc, hier, ça s'est passé et malheureusement, ça s'est coïncidé avec la panne de centrale Kekeli. Ce matin, c'était revenu hier soir au Nigeria. Ce matin, ça a encore repris. D'accord. Et donc, il y a des coupures.
Ok. D'accord.
Ok.
Oui, votre note de fin d'émission rapidement.
Non, moi, je donne 8 sur 10 à Lancy, qui est en train de faire des efforts pour sécuriser les informations du pays.
Oui, Isidore, votre note?
Non, je n'ai pas de note.
Ok, merci.
Simplement d'une doléance. Et il faut réparer l'effet tricolore.
D'accord, c'est important.
Moi, j'ai eu une note 10/10 au président de l'Assemblée nationale.
D'accord, ok. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci, chers confrères, d'être passés dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Tout le monde était d'Atevi à assurer la mise en onde. Jérôme Akuta était à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain, mercredi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.